c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 180. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui, on a Laurent Saïm comme invité. C'était Benjamin François Benji. Comment tu vas?
Oui, bonjour Daniel. Putain, j'ai essayé de faire une imitation de Laurent Saïm, en fait, je sais pas du
tout. Il ne savait pas ce que j'allais dire et il est tombé.
Non, voilà, j'ai dû improviser en 3 secondes, mais je pense que même si tu me laissais 3 jours, je saurais toujours pas imiter Laurent Saïm.
Il faudrait une IA.
Tu commences déjà. Bonjour Daniel.
Alors,
oui, en direct de Los Angeles, Californie, Daniel, les résultats des élections, mais pas de politique dans ce podcast.
On peut pas s'exprimer encore.
Il est trop tôt. Les premiers résultats sont tombés. 3 votes pour Trump, 3 votes pour Kamala Harris.
Les jeux sont faits. Bon, Benji, on va pas esquiver ce sujet parce que bon, il est un peu brûlant. Et puis bon, il a marqué un peu ta semaine. Cependant, on va commencer par des choses. C'est quoi, tu me permets de dire des choses un peu plus réjouissantes?
Je t'en prie.
Alors, on va d'abord remercier tous les gens qui donnent sur patreon.com/RPU.
Épisode exceptionnel.
Oh, oui, merci. je te le fais pas dire. En fait,
tu vas voir que Baptiste au montage, il va mettre ça à la fin, juste pour te faire chier.
Faut vous dire un truc, c'est que avant l'épisode, on a déjà eu 15 minutes de discussion sur le ciné, on a déjà tout épuisé les sujets maintenant. C'est bon, on peut parler politique. Non, mais bon, voilà. patreon.com/RPU pour nous soutenir et pour vous faire une annonce. Pas n'importe laquelle. On le teasait depuis quelques épisodes.
Ouais.
Mais on s'est mis d'accord. Normalement, ça sera
le 14 décembre.
Mais qu'est-ce qui sera le 14 décembre, Daniel?
Le premier épisode live d'After Eight.
T'as vu cette relance? On est devenu presque pro. Hein.
Presque professionnel. Franchement, on devrait s'appeler Origamo. Et
Le 14 décembre, donc un samedi, le 14 décembre, je précise pour les gens qui écoutent cet épisode en retard.
Voilà, donc tu viendras, en sachant que tu as le droit de repartir aux États-Unis après, hein, t'es pas obligé de rester en France. Hein.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, tu viendras en France et on va profiter de ta présence, on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, on va trioguler ta position pour faire un épisode live.
Voilà.
On n'a pas encore ni l'horaire ni le lieu. On est en train dans les organisations.
Ouais, mais on fait un épisode en direct et en public d'After Eight le 14 décembre. Alors, je dis en direct, je sais pas si on va le streamer sur Twitch, mais en tout cas, il sera en public, ça c'est sûr.
Non, il sera pas, on le streamera pas. Ça sera vraiment pour les gens qui viendront et on fera une captation de bonne qualité.
Voilà.
Pour la balado-diffusion que vous nous écoutiez partout. On va essayer de faire ça aussi bien que possible, aussi vivant que possible. On est en train de faire tous les sujets. Moi j'ai des idées de sujets qui viennent, bien sûr.
Alors, je veux déjà prévenir nos auditeurs de province que ça sera malheureusement à Paris. Parce que
oui, mais là c'est un truc logistique. C'est, il vient de Los Angeles. Si on voulait le faire à La Rochelle, il aurait fallu payer un avion supplémentaire de Paris à Los Angeles, non, Paris, La Rochelle.
Mais c'est toujours faisable. Hein, mais là, non, mais, là je t'avoue que
j'adorerais le faire à La Rochelle parce qu'en plus il fait bon air là-bas. Mais bon, c'est pas la question. La question c'est de le faire à Paris, surtout si on veut voir un certain guest.
Voilà, c'est qu'on essaie quand même d'avoir un guest. On a déjà une bonne idée de ce dont on a envie de parler.
On a une liste de guests potentiels. Je suis encore en contact avec Michel Barnier pour assister à l'enregistrement. Je sais pas pourquoi,
moi,
je le sens pas chaud.
J'ai Nicolas Bedos dans mes DM qui veut absolument venir, mais
Et alors, il y a Jean-Marc Morandini qui veut déjà booker sa place. Putain, on devrait faire une émission All Hate. Les gens seraient ravis. Les gens seraient ravis, quoi. Tu sais quoi, je m'assois derrière la table et je fais bon, bonjour. Alors, Nicolas Bedos.
Souviens-toi, on avait fait une émission sur Morandini. On pourrait faire une émission Morandini 8 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé?
Tu veux que je te dise le problème de Morandini? C'est que nonobstant les affaires, nonobstant sa série pédo, nonobstant les accusations, sa condamnation, il est toujours, il a fait appel et tout machin. Nonobstant sa condamnation, c'est que on a trouvé pire. c'est qu'il y a eu pire à la télé. Il y a eu, tout d'un coup, il y a une espèce d'organe de propagande qui, tu sais, enfin, tout l'Anunaverse, c'est tout ça. Enfin, tout d'un coup, il y a eu pire.
Ouais.
Et tu sais quoi, on devrait pas faire les marioles parce que ça vous est arrivé à vous, ça va pas un jour, ça va
déjà,
pas.
Déjà, on devrait pas faire les marioles parce que Blast les ont déjà fait et c'est une catastrophe.
Ah oui, ça c'est blague, je l'ai.
Blague niche, mais je savais que tu l'aurais.
Ouais, c'est dur, mais oui, c'est vrai. Et voilà, il y aura le live, l'ambiance sera bonne. On va essayer de choisir un endroit chouette. Et puis on vous donne rendez-vous. Normalement, c'est le 15 décembre. Voilà.
Voilà, le 15 décembre 2024. Marquez ça sur vos tablettes. On vous donnera plus de détails de toute façon.
Et il y a un autre détail, c'est que les places, bien sûr, seront limitées. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que en fait, tu sais quoi, je ne suis pas au courant. Comme toi, faut le savoir un truc. Nous ne sommes pas au courant de notre audience. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes des milliers à nous suivre, peut-être que vous êtes des 10 milliers à nous suivre. Et comme on s'en fiche un...
Peut-être que vous êtes 6 et on vous salue tous.
Mais peut-être que vous êtes 6 et vous serez 6 dans la salle. On n'en sait rien.
Voilà.
On en sait fiche.
Sauf qu'ils sont 6 et ils sont tous à La Rochelle. Ils peuvent pas venir à Paris.
Mais bref, je sais pas du tout. C'est un truc très particulier parce que tu vois, YouTube, ce qu'on fait avec Soumis Ma Scène, on voit le chiffre, on voit les gens qui donnent sur Patreon, on peut estimer une espèce d'auditoire. Nous, comme on se fiche éperdument de ça. En plus, comme tu as décidé de quitter Twitter, ce qui est une forme de manière de communiquer dessus, les vecteurs de communication les vecteurs de communication sains disparaissent au fur et à mesure. Donc,
dans le même temps, c'est pas de ma faute si Twitter est devenu une fosse à purin remplie de nazis, voilà.
Alors ça, tu sais quoi, je ne te jetterai pas la première pierre, je pense que tu as complètement raison.
Voilà, donc je pense que je vais me faire violence et je vais encore utiliser Twitter, ne serait-ce que pour communiquer sur la date du live, pour donner les détails. Mais ces détails seront aussi sur notre site web, ces détails seront aussi sur le compte Mastodon d'After8 que j'ai créé dans la foulée, qui est @mastodon.social, que vous pouvez trouver en cherchant @after8fr sur Mastodon.
Et moi je communiquerai dessus, si tu me permets, je communiquerai dessus sur Blue Sky,
sur
mon compte perso. Je suis pas décidé à faire un compte After8 sans toi
sur Blue Sky. Mais franchement, tu peux, hein. Moi, je te dis, je te donne toute liberté de faire un compte After8 sur Blue Sky si tu veux.
Oui, mais si tu l'animais, mais je me sens pas d'animer tout seul et j'ai plutôt envie de faire ça de manière collégiale, tu vois. Et ça, c'est quoi, ça te donnerait un pied à Blue Sky, je dis ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont nous dire, mais Mastodon, personne n'en a rien à cirer. Moi, le premier, c'est vrai. Mais d'abord, c'est le choix de Benji, il fait ce qu'il veut. Et on se parle de toute manière tous les jours. Hein. C'est pas ça qui nous empêche de nous parler parce qu'on n'est pas sur le même réseau social. Moi, j'ai choisi Blue Sky simplement parce qu'il y a mes amis là-bas. Et
j'ai choisi Mastodon parce que vous êtes pas dessus.
Oui, voilà. Non, mais il y en a, son avatar, c'est un canard qui fait la gueule. Voilà, c'est tout dit.
Non, mais tu voulais pas que j'aille sur le même réseau social que Stéphane Boulet non plus, quoi. Non, mais sans déconner.
Ouais. En plus, Stéphane Boulet, il commence à avoir une aura dessus, là.
Sur Blue Sky, ouais. Bon, il a raison de plus, quoi.
Tu m'étonnes.
Restons sérieux.
Bref, on communiquera dessus comme il faudra. Vous rassurez-vous. Et surtout, on essaiera de faire un épisode avant le live, histoire de bien chauffer les gens.
Voilà.
Ou surtout avant la mise en vente des billets, parce que ça, c'est indispensable, sinon. Et puis, on vous fait confiance. On espère que vous répondrez présent.
On fera au pire un mini-isode avec les détails du live qu'on mettra en ligne sur le même flux, comme ça vous aurez tout.
Non,
si jamais vous nous suivez pas sur les réseaux sociaux.
Ne t'engage pas. Souviens-toi, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, 100 jours pour convaincre, ça n'a pas convaincu. faut que je te dise un truc. Puisqu'on parle de ça. Ah putain, mais attends, il faut que j'aille le chercher.
Puisqu'on parle de Dominique de Villepin.
J'étais en week-end, pendant les vacances, j'étais en week-end dans une maison et il y avait des bouquins sur les étagères. Et là, mec, j'ai trouvé le Graal. Et alors, Baptiste va monter. J'ai trouvé le Graal, j'arrive.
Et donc, Baptiste va monter. Alors, peut-être qu'il a trouvé le Graal, à savoir les romans de Marlène Schiappa, je ne sais pas.
Il est où le bouquin de merde ? Ne dis pas son nom.
Alors,
va falloir que tu précises parce que...
Le bouquin de merde qu'on a ramené de Normandie.
Tu gardes tout ça de Baptiste, hein.
Mais attends, mais je cherche.
C'est juste de merde.
Mais je le cherche.
Ça, c'est du podcast vérité, ça.
Ah, c'est bon, j'ai.
C'est intense. Ah, il en a pas des comme ça, Fabrice Drouel, hein.
Je ne sais pas ce que t'as dit pendant tout ce temps-là.
Oh, rien du tout.
Donc, j'ai trouvé le Graal. J'ai demandé si je pouvais le garder. Évidemment, ils ont dit oui.
Et oui, ils étaient bien contents de s'en débarrasser.
Amandine a dit non, évidemment.
Je pense qu'elle a dit non, on en a assez de ces bouquins de merde, t'en as déjà plein.
Non, elle a dit tu le veux vraiment avec... Ce moment où les yeux rencontrent les cils du haut et qu'ils regardent vers le ciel en se disant « bon Dieu ». Et donc, j'ai trouvé « Baladur » par Claire Chazal. mon gars, ouais. C'est incroyable. Donc, c'est simple. Si au live, si le live vous venez pas massivement, je lirai le chapitre 17, je crois en l'état. De ce livre incroyable.
Est-ce... Mais tu sais que tu vas vraiment faire peur. Enfin, personne va venir.
Non, non, c'est une blague. Je vais pas le lire. Mais c'est quoi? Putain, c'est vraiment, c'est un livre. C'est très excitant si t'as connu cette période un petit peu quand même. Et il y a même une coquille sur la dernière page. C'est vraiment savoureux. Vraiment, c'est un totem d'une époque. Voilà, je chéris ce livre de toute mon âme.
D'accord.
Et je me demande comment ça finit sur les bibliothèques des gens.
Bah, écoute, peut-être comme toi, peut-être qu'ils ont un kink et qu'à un moment ils se le font offrir.
Peut-être que c'est le moi du futur qui est le moi du passé
qui est venu le déposer là-bas en disant
vas-y, prends-le, tu ne retrouveras jamais, sinon.
Ouais.
Bref, Claire Chazal, Baladur, it's a thing. Benji, maintenant qu'on a parlé du live, maintenant qu'on a parlé de Baladur et de toutes ces choses qui nous aident, tu sais quoi, Amandine, en plus elle nous vanne à chaque fois, elle me dit votre podcast de vue, à chaque fois vous parlez de vos blessures, de vos gouttes et tout ça. Là on commence avec Baladur, je veux dire on est
bien là.
On est
les jeunes générations à fond là.
Là on a les jeunes avec nous là. Et j'aimerais bien un jour qu'il y ait quelqu'un genre qui est jeune et qui nous écoute et qui nous dise je vous écoute, ça me ferait très plaisir. Je me dirais que il y a un renouvellement. Bon.
Je vous écoute, j'écris une thèse de doctorat sur Pierre Bérégovoy et je vous adore.
Qui fait ça?
Un jeune peut-être, on ne sait pas.
Donc Benji, il y a aussi un truc qui s'appelle les élections.
Ouais, c'est un concept. Alors, c'est des élections dont on respecte le résultat, un truc que vous connaissez plus, vous.
Ouais. Mais tu sais quoi? Si tu fais la gueule, c'est vrai que tu fais la gueule à cause des résultats, mais moi, j'ai un conseil à te donner. Si tu veux reprendre espoir, aux législatives, tu fais barrage. Et peut-être que ça marchera.
Écoute, à ma première présidentielle en France, on a eu Le Pen au deuxième tour. Et à ma première présidentielle aux USA, on a Trump réélu. Bah écoute, je pense que le problème, c'est moi au final. Faut peut-être juste que j'abandonne toute idée d'aller voter.
Ouais, peut-être que c'est toi la boussole qui indique le Sud. Hein, tu sais.
Mais c'est peut-être moi. Hein. Plus que le résultat à la présidentielle qui est évidemment désastreux, j'avais envie un peu d'expliquer comment se déroule le processus de vote, en tout cas en Californie, puisque je sais qu'on a une partie de nos auditeurs qui aiment bien quand j'explique notamment les choses qui sont assez différentes entre les États-Unis et la France. Et donc à ce niveau-là, j'avais trois moyens de voter pour cette élection. Alors, on a tous reçu j'ai pas envie de dire un bulletin de vote parce que c'était plus un cahier, enfin c'était trois grosses pages sur lesquelles je suis invité à noircir des cases pour indiquer mon choix. Tu vois, un peu comme les QCM où t'as des petites bulles et il faut noircir la bonne réponse. Bah là, c'est pareil en fait. T'as des petites bulles et tu noircis celle qui est en face de la réponse que tu veux donner ou du candidat pour lequel tu veux voter. Et donc, il y a trois moyens. Soit en utilisant ce bulletin que tu reçois par courrier et ensuite tu le renvoies par la poste, ou alors tu vas le déposer dans une boîte à voter. Il y en a plusieurs. Il y avait une en face de mon bureau de vote, mais sinon, t'en as d'autres qui sont juste dans la rue, à côté de la poste ou des endroits comme ça. Ou alors, y avait le vote entre guillemets à l'urne, puisque tu votes pas vraiment à une urne, tu votes sur une machine à voter. Alors, comment ça se passe la machine à voter aux États-Unis, sachant que peut-être que ça se passe exactement de la même manière sur les machines à voter de vote électronique française, je ne sais pas. J'ai toujours refusé d'utiliser les machines à voter en France, mais ici, j'avais pas trop le choix. on te donne une feuille de papier. Alors déjà, tu te présentes, tu dis ton nom, ton prénom, ta date de naissance et on te donne ta feuille de papier. Car oui, aux États-Unis, en tout cas en Californie, la présentation d'une pièce d'identité n'est absolument pas obligatoire. Et d'ailleurs, personne ne te la demande. Donc, tu es inscrit sur une liste d'émargement. C'est au moment où tu t'inscris sur la liste d'émargement que tu prouves ton identité, en fait, via soit ton certificat de naissance, ton passeport, pas ton permis de conduire, parce que ton permis de conduire, tu peux l'avoir sans être citoyen, soit ton certificat de naturalisation, c'est ce que moi, j'avais utilisé à l'époque. Et donc, le jour J, tu viens à ton bureau de vote, tu donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, et on te donne donc cette feuille de papier. Alors, c'est une feuille de papier semi-cartonnée, un peu rigide, sur laquelle, en haut à gauche, il y a un QR code, il y a deux, trois infos, et tu vas avec à la machine à voter. Tu poses ta feuille de papier sur la machine à voter, et la machine à voter aspire ta feuille de papier, qui donc, hop, disparaît. Et partant de là, on te donne les choix sur lesquels voter sur un écran tactile. Et donc, tu votes. Alors, il faut savoir que les Américains votent toujours pour plein de trucs le jour de l'élection. Donc, évidemment, on votait pour la présidentielle, mais on votait aussi pour un sénateur. On votait aussi pour le district attorney, donc le procureur général de Californie. On votait aussi pour tout un tas de propositions de loi locales. Au total, j'ai voté pour 29 trucs lors de cette élection. Et évidemment, quand on te demande à choisir entre deux personnes pour être juge dans tel ou tel district, tu les connais pas forcément, donc ça implique de faire un petit travail de recherche. Alors, travail que tout le monde ne fait pas, mais comme j'ai voulu faire les choses bien, j'ai un peu fait mon boulot. J'ai passé 2 heures, 2 jours avant, à chercher tous les candidats, quels étaient leurs programmes, qu'est-ce qu'ils proposaient, pour savoir pour qui voter. Alors, évidemment, ça implique pas mal de travail. Tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'envie de le faire, mais pour faire son devoir citoyen proprement, j'ai essayé un petit peu de faire ça dans les règles de l'art.
Est-ce que tu peux me dire combien de temps ça prend ?
Alors, le vote lui-même...
Non, la recherche.
La recherche m'a pris entre 2 et 3 heures.
D'accord, ouais, faut quand même y donner du temps, quoi.
Faut quand même y passer du temps. Le vote lui-même, une fois que t'as fait toute ta recherche, oh, c'est plié en 5 minutes, quoi. Globalement, ça va. C'est la file d'attente pour aller voter, qui est vachement plus longue. La file d'attente pour aller voter. Et encore, je m'en tire bien parce que moi, j'ai juste attendu 45 minutes. Il y a des endroits où il faut attendre plusieurs heures, parfois en plein cagnard, parfois sans avoir le droit qu'on te donne de l'eau ou de la nourriture, parce que il y a des lois qui ont été passées pour interdire ça. Hein, des républicains qui, évidemment, ont tout intérêt à ce que les gens votent moins, avaient tout intérêt à ce que les gens votent moins dans certains endroits, qu'on fait passer des lois pour interdire ce genre de trucs.
Attends, tu veux dire que le fameux truc, là, parce que c'est un plot entier de la dernière saison de Curb Your Enthusiasm,
ouais.
À un moment, il y a Larry David qui donne de l'eau à une femme, et genre dans la file d'attente ou je sais plus quoi, et à un moment, et on lui dit « Ah non, vous avez pas le droit ».
Ouais, non, c'est réel, ça.
C'est réel, c'est vraiment... Mais pourquoi ?
Bah, c'est parce que t'as des endroits aux États-Unis, t'as des cantons aux États-Unis où il est avéré que la plupart des gens qui vont voter en personne, c'est des gens issus de minorités qui vont voter pour des démocrates. Et quand t'as une longue file d'attente, si tu leur files de l'eau et à bouffer, bah, ils peuvent rester plus longtemps. Alors que les républicains, ils ont tout intérêt à ce que les gens, ils abandonnent et se cassent et votent pas. Et c'est comme ça qu'ils gagnent.
Oh la vache.
Donc ils ont fait passer des lois dans ce sens.
Eh ben putain, à part ça, il y a pas de triche, hein, tout va bien.
Bah les républicains, ils sont obligés de faire des trucs comme ça pour gagner. Hein. Bon, bref, quoi qu'il en soit, une fois que tu as fait tes 29 choix, ta feuille de papier ressort avec tes choix imprimés dessus. Tu peux les relire, vérifier que c'est bien les choix que tu as fait. Et ensuite, tu remets ta feuille de papier dans la machine. Et la feuille de papier, elle disparaît et ton vote est pris en compte. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne derrière, parce que j'avoue, j'ai pas trop cherché à m'enseigner, mais je vais le faire pour le recomptage, par exemple. Là, qu'est-ce qui arrive à cette feuille de papier ? Est-ce que ça part dans une base de données ? Parce que la feuille de papier, je pense qu'elle est détruite, en fait. Qu'elle est là juste pour que tu vérifies que ce qui est sur le point d'être envoyé est bien valide. Donc, malheureusement... Je n'ai pas toutes les infos sur comment on peut être assuré que mon vote a bien été pris en compte, comment on peut être assuré que mon vote n'a pas été modifié. Il me semble que la société qui fournit ces machines a gagné un procès contre le camp Trump il y a genre 2 ans parce qu'ils avaient hurlé à la fraude et que donc la compagnie qui fournissait ces machines à voter avait démontré que non, il n'y avait pas eu de fraude. Mais toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe le jour de l'élection. Et une fois que t'as voté, tu t'en vas et on te donne un petit autocollant qui dit « J'ai voté !» que tu peux afficher fièrement sur ton, sur ta poitrine.
Ou sur l'Instagrammer, comme tu veux.
Ou sur ton sac ou l'Instagrammer, ou voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, Daniel, on va faire un petit jeu.
Ah, d'accord. J'adore les jeux. Alors, franchement, surtout ceux qui appliquent, ceux qui appliquent notre démocratie.
Surtout la mienne. Je vais donner un indice. Je vais donner un indice. Globalement, les bons citoyens californiens ont voté de manière assez catastrophique. Alors, Kamala Harris a bien eu une majorité des votes. Hein, c'est pas ça la question.
En ville.
Grâce aux villes, ouais, elle a eu 58% au total des scrutins.
Ah, c'est pas si large hein, pour la Californie.
Non, c'est pas si large. C'est pas si large parce que la Californie a un petit peu, j'ai l'impression, viré à droite de plus en plus. Mais bon, 58% pour Harris, 38,9% pour Trump, et puis 2,8% pour les autres candidats. Sachant que Robert Kennedy Jr. était encore sur le bulletin parce qu'il s'est retiré trop tard. mais ça n'aurait rien changé pour Kamala au national de toute façon. Donc, on va parler des projets de loi parce qu'il y avait des propositions de loi donc, qui sont soumises au vote. Et y a des résultats qui ont été un peu surprenants.
D'accord, ouais, je suis prêt. Vas-y, balance.
Alors, est-ce qu'on va toutes les faire ? Oh, il y en a pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 10. Tu veux tous
les 10 ? Je ferai les 10. Allez. Moi, je. Les lois, j'aime ça, les lois.
Ok, alors la première, c'était la proposition 2, qui était de permettre un emprunt global pour financer l'éducation. À ton avis, est-ce que ça s'est passé, oui ou non ?
Alors. Il me faut une explication. Un emprunt global. Pourquoi il n'est pas global l'emprunt avant ?
Non, c'est un emprunt au niveau de l'État, si tu veux.
Un emprunt de l'État. Ça veut dire que le citoyen peut demander à l'État. Il peut demander de l'argent à l'État.
Non, c'est l'État qui va emprunter de l'argent pour financer l'éducation.
Moi, je dis oui.
Eh ben oui, c'est passé. C'est passé. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est un truc dont on est plutôt content. Pas de souci. L'éducation publique va pouvoir être financée grâce à de l'argent. D'accord. En gros, on va émettre des obligations pour l'éducation publique.
Et quand même, ça veut dire qu'il se pose des questions. Hein. Ça veut dire que... Ouais, ça veut dire qu'ils se questionnent vraiment sur le fonctionnement de leur système, quoi.
Voilà. La proposition 3, c'était le droit au mariage pour tous, qui n'avait pas été... ratifié en loi.
En Californie ?
En fait, eh ben non, sachant surtout que la Californie, il y a quelques années, elle avait voté une loi qui était la Proposition 8, qui était l'inverse, qui avait rendu illégal le mariage homosexuel.
Mais on parle de l'État où se trouve San Francisco, quand même.
On parle de l'État où se trouve San Francisco, et en 2008, la Proposition 8, qui était donc une proposition de loi californienne, a été votée et a été approuvée et interdisait le mariage entre personnes de même sexe.
Et c'est devenu effectif.
Et c'est une loi qui ensuite a été annulée par la Cour suprême californienne, si je ne m'abuse.
D'accord. Et alors, bah, je pense que oui, ça a gagné.
Mais là, la loi visait à inscrire dans la constitution californienne le droit pour les homosexuels de se marier. Oui, c'est passé.
Bon, ok. Ah, bah pour l'instant...
C'est passé à presque 62%. Donc c'est là où tu te demandes comment les gens votent, parce qu'il y a 16 ans, c'est l'inverse qui est passé.
Ouais, je sais pas, je pense que les gens qui sont très motivés, ils y vont, hein, c'est pour ça.
En fait, moi, je pense qu'un peu comme les juges, le problème de beaucoup de ces propositions de loi, c'est que soit elles sont écrites de manière un petit peu équivoque et tu as du mal à comprendre parfois ce pourquoi tu votes, ou alors pire, c'est des lois qui, sous des atours assez intéressants, cachent en fait des trucs dégueulasses derrière. On a vu l'exemple il y a 4 ans avec une proposition de loi qui émanait de Uber, Lyft, DoorDash, Grubhub, enfin tout ce qui était Airbnb, tout ce qui était ce qu'on appelle la gig economy, et qui promettait d'améliorer les conditions de vie des gens qui bossaient pour eux. Alors que quand tu regardais les petits caractères, c'était une loi absolument dégueulasse et qui, en plus, pour être renversée, nécessitait genre 65% des votes et tout. Enfin, en gros, c'est un truc horrible. Eh ben, c'est évidemment passé parce que le bon citoyen californien avait l'impression de faire les choses bien pour les gens qui travaillaient pour ces boîtes-là, quoi.
Et de faire, marcher l'économie, ouais.
Voilà, résultat. Bon, ça aussi, ça a été retoqué au final par la justice, heureusement, parce que sinon, on n'avait pas le cul sorti des ronces.
C'est comme la France. Tu peux pas faire non plus n'importe quoi et qu'il y a le Conseil constitutionnel qui te dit, wow, attends 2 secondes.
Voilà, heureusement, derrière, il y a encore des juges. Mais, Je te rappelle que depuis l'élection de Trump, on a un paquet de juges qui ont été nommés par Trump et qui donc prennent des décisions archi-conservatrices. Donc,
ok, bon bah écoute, en tout cas pour les lois, pour l'instant ça va. Mais, et pour l'instant, je comprends à peu près où votent tes concitoyens. Mais attends, je pense qu'il va y avoir des surprises si tu me fais ce quiz.
La proposition 4 est un peu liée à la proposition 2. C'était donc d'émettre des obligations pour une utilisation de fonds par l'État pour tout un tas de travaux d'intérêt général.
Genre les routes, quoi.
Les services.
J'ai dit
publics.
Les routes au hasard parce que. Pas au hasard. Parce que j'ai déjà roulé en Californie et les routes de Californie, sont pas ouf, quoi, faut le dire.
Ouais. Alors.
Bah, je dis oui aussi.
Tu dis oui, ok, et ben oui, effectivement, c'est passé.
Bah ouais, enfin, ça aurait été logique quand même, là, il y a deux lois dans le sens.
Voilà, alors, on arrive à ce qui devient un peu plus intéressant. La proposition 5, elle visait à abaisser le seuil d'approbation locale pour financer des projets de logement. Notamment, par exemple, quand tu veux faire des logements sociaux, t'es obligé de faire une consultation locale, et il doit y avoir une certaine majorité. Et cette majorité, en fonction de l'endroit, là, on essayait de la faire descendre au niveau de l'État tout entier pour permettre de construire plus de logements sociaux, notamment.
Alors, mon instinct me dit que non, ce n'est pas passé.
Eh bien, tu as raison, ça n'est pas passé à 56%.
Et tu veux que je te dise pourquoi ? C'est parce que la Californie, il y a beaucoup de gens pauvres, et il y a aussi beaucoup de gens riches, et surtout, il y a une gentrification graduelle de la Californie qui fait que dès que tu deviens propriétaire ou que tu commences à avoir des intérêts dans certains endroits, tu n'as pas envie que d'autres s'immiscent et tout ça. C'est un réflexe. C'est comme en France quand les mecs ils te disent on va faire un foyer social en face de chez vous. Et les gens disent bah non, alors que normalement tu sais, c'est dans la loi, hein, tu dois faire des foyers sociaux. Bon, écoute,
eh bien tu as bien raison et tu as bien expliqué en fait. C'est un phénomène qui s'appelle aux États-Unis le not in my backyard, le NIMBY.
Ouais.
En gros, ça veut dire on veut bien être gentil, on veut bien financer des trucs, mais pas derrière chez moi. Donc ils ont voté non.
Mais je me souviens de c'était un vieux marche du siècle. Tu te souviens de la marche du siècle ?
Et je me souviens, Jean-Marie Cavada.
Oh là, on a perdu vraiment tout le monde.
Ah bah Jean-Marie Cavada.
Ils avaient fait un sondage sur et en plus à l'époque, c'était ils parlaient de l'aspect de l'immigration positive et à un moment, il a fait un sondage et le sondage c'était est-ce que vous êtes pour ou contre les fabrications des mosquées ? Ça devait être en 92 hein, t'imagines ?
Ouais.
Et le sondage était ultra hyper positif, 80% étaient pour une fabrication de mosquées. Et ensuite, est-ce que vous êtes pour la fabrication de mosquées à côté de chez vous ? Et soudain, bizarrement, le sondage baissait pour X ou Y raison. Peut-être qu'il n'y a pas la place, hein. Moi, je sais.
Ouais.
Mais tu sais quoi, j'ai un foyer social en face de chez moi et il n'y a pas de. Enfin, voilà. Je comprends exactement le réflexe de not in my backyard complet qui.
Voilà.
Voilà, ils se disent, les gens se disent, le prix au mètre carré va baisser. Enfin, des trucs comme ça, quoi.
Alors, on va continuer. Là, on ne parle plus de prix au mètre carré, mais on va parler d'esclavage.
Ah.
On va parler d'esclavage moderne, puisque, le savais-tu, en
Uber?
Californie...
Ah non, pardon.
Non, une vraie forme d'esclavage. Pour
d'accord, vas-y.
En Californie, les prisonniers, donc les gens qui sont dans des prisons d'État... Aujourd'hui, de nos jours, ces gens-là ont des travaux forcés. Et on parle bien de travail. On parle bien, par exemple, d'employer des détenus pour aller éteindre les feux de forêt. On leur donne une formation de pompiers. On leur apprend à comment combattre les feux de forêt. Et ensuite, on les envoie combattre les incendies et ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas un emploi volontaire. C'est vraiment de la servitude forcée. Et donc, il y avait une proposition de loi interdire, ils appellent ça la Remove Slavery Exception General, donc l'exception d'esclavage, qui donc concerne tous les détenus dans les prisons californiennes. Alors, le truc qui est vraiment le plus ubuesque, c'est que ces détenus qu'on aura formés au travail de pompiers, une fois sortis de prison, ils n'ont pas le droit d'exercer cet emploi parce qu'ils ont été détenus.
Surtout si c'était pyromane et qu'ils ont été complètement pyromanes, t'imagines? Et donc,
à ton avis, cette proposition 6 qui propose de supprimer cette exception d'esclavage et donc de permettre aux détenus d'exercer l'emploi qu'ils veulent, s'ils le désirent, au lieu d'être obligés d'aller travailler.
Ouais. Je pense que ça a dû être changé.
Alors, je vais te donner un indice. Pour chaque mesure, en fait, sur le bulletin, directement sur le bulletin, on t'indique la liste des gens qui sont pour et la liste des gens qui sont contre.
D'accord.
Alors, on te fait une petite sélection, mais globalement... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour celle-là, dans les contre, il n'y avait rien. Personne, aucun argument contre, tout le monde était pour.
Tout le monde était pour
supprimer cet esclavage.
D'accord, ok.
Eh ben, sache-le, le non l'a emporté à 54%.
C'est vrai ?
C'est absolument incompréhensible.
Mais surtout, c'est limite dangereux, en fait, de donner des responsabilités de vie à des gens qui n'ont pas envie de le faire, en fait.
Eh ben, écoute, tu l'as dit mieux que moi. Le bon citoyen californien estimait que l'esclavage des détenus, c'était OK, à 54%.
C'est vraiment les travaux forcés, ouais.
Ah, c'est les travaux forcés, c'est toujours les travaux forcés.
C'est le pont de la rivière, quoi, et quand même. Là, bon.
Alors, on continue. Proposition 32, augmenter le salaire minimum à $18 de l'heure. On est en Californie. Un État quand même qui est décrit comme, on le rappelle, une utopie communiste par Trump et sa clique. À ton avis, est-ce que c'est passé? Et alors là, il n'y avait vraiment pas de vocabulaire compliqué. Hein. C'était vraiment augmenter le salaire minimum. Dans le détail, il est marqué obligation, salaire minimum, $18.
Vu l'actualité des États-Unis, je pense que c'est pas passé.
Eh bien, tu as raison.
Ah, la
ça
vache,
n'est pas passé
vraiment,
à 51,5%.
Je lis bien ton... Ah, de peu, en plus. Je lis bien ton pays, franchement. Oh, merde, il y a tout qui se casse la gueule chez moi. franchement, je lis bien ton pays. Hein. Je comprends les rouages de ce qui peut animer. Mais alors, bien sûr, j'essaye... C'est la famille en or. Hein. J'essaye pas, je dis pas mon opinion, j'essaye de comprendre qui est en haut du sondage, quoi.
Donc,
ah putain, les gens doivent, les plus jeunes, ils doivent pas connaître la famille en or.
Non, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas la famille en or. Alors, ça n'est pas passé. Ma meilleure explication, c'est que je pense que Joe Schmo moyen, il a dû se dire, si j'augmente le salaire minimum, ça va faire augmenter les prix de tout. Puisque les patrons, ils vont augmenter les prix surtout pour mieux payer leurs employés, plutôt que de réduire leurs dividendes. Et c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, je pense.
Et il y a aussi un truc de méritologie à l'américaine, quand même. C'est un truc qui est très important, surtout en Californie, de « Ah, bah, tu work your ass et tu réussiras, quoi. »
Je pense que tu voulais dire méritocratie, mais oui, peut-être.
Méritocratie.
Mais
oui.
Après, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est que cette vision court-termiste, elle oublie que si tu donnes plus de pouvoir d'achat aux gens, bah, ils consomment plus, et donc que ton économie, bah, elle tourne mieux. Mais bon, ça, fallait pas trop leur en demander, hein. Proposition 33.
Et ils payent plus d'impôts aussi.
Proposition 33, étendre les mesures de contrôle des loyers à l'État tout entier. Alors, je vais donner un peu de contexte. Il y a ce qui s'appelle du rent control dans beaucoup de villes en Californie, notamment à Los Angeles. Il y a un rent control qui signifie que par année, votre logeur ne peut pas augmenter votre loyer de manière démesurée. Il y a un maximum. Dans certaines villes, c'est 3%. Dans certaines villes, c'est plus. Dans certaines villes, c'est moins. Mais globalement, c'est pour empêcher un logeur d'augmenter le loyer de manière débile. Ce qui est un moyen caché d'expulser les gens, globalement. Tu augmentes leur loyer de manière complètement démentielle, ils peuvent plus payer, et derrière, tu peux appeler la police, quoi.
Ce qui se fait à New York, hein, d'ailleurs.
Alors, je sais pas si à New York, il y a du rent control, mais j'imagine que si ça se fait à New York, il y en a pas. Et donc là, l'idée était d'écrire dans la loi californienne.
Enfin, justement, il y a pas de, justement, le rent control, il est très vague, hein. De tous les gens à qui j'ai parlé, ils me disent, moi, tout d'un coup, le mec a décidé d'augmenter de $2000. $2000, c'est rien du tout, hein, d'augmentation de loyer à New York. Alors, et les mecs, ils font, ah, bah, merde, c'est un problème.
Alors, à New York, si je ne m'abuse, il y a aussi un système très, très spécifique dans la ville de New York même, pour tout ce qui est appartement en copropriété. Il me semble que le fonctionnement des syndics là-bas est très, très spécifique à New York, mais en tout cas en Californie, donc il y avait une volonté d'établir au niveau de l'État une mesure qui permettrait donc de limiter les possibilités pour les logeurs d'augmenter de manière démesurée les loyers. À ton avis, est-ce que c'est passé?
Non.
Et tu as raison, ça n'est pas passé à 61%. Alors, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on est un état de loueur globalement. Enfin, je dis on, j'avoue, je suis propriétaire, mais il y a quand même beaucoup plus de loueurs que de proprios, et je trouve ça incroyable que ça ne soit pas passé.
Ouais,
personnellement,
ouais,
mais... ça à 61% quand même. Moi, tu vois, tu m'aurais dit 51-49, je t'aurais dit ok, ça me surprend pas, comme pour le salaire minimum, mais là 61-39, c'est vraiment une défaite super violente.
C'est violent. Hein.
Proposition 34. Et alors, la proposition 34, il y a une petite astuce. limiter les dépenses des healthcare providers, donc de tout ce qui est organisme de santé.
Voilà, où tu vas.
L'idée, en fait, c'était d'obliger tout ce qui était organisme de santé et aussi ONG, tout ce qui est la AIDS Foundation, un truc comme ça, les obliger à utiliser 95% de leur budget pour des dépenses relatives à la santé.
Ok.
Alors, est-ce que tu penses que ça s'est passé ?
Je vois pas quel est le problème, mais donc je dirais oui, c'est passé.
C'est passé à 51%.
Oh là, putain, c'est vraiment, je famille en or là, je gagne tout là.
Et je vais t'expliquer quel est le problème. Le problème, c'est que cette mesure 34 était une mesure de vengeance de la part de l'association des agents immobiliers, des propriétaires terriens, de tous les gens qui étaient visés par la précédente proposition de loi, qui n'étaient pas contents qu'on essaye de limiter l'augmentation des loyers. Et c'était une mesure qui était poussée notamment par la AIDS Foundation, donc la fondation des malades du sida, parce qu'ils avaient une partie de leur budget qui était pour le militantisme politique. Et donc, ce qu'ont fait les associations de proprios, d'agents immobiliers, c'est une loi vengeance pour les bâillonner et pour les empêcher d'utiliser plus de 5% de leur budget pour le militantisme politique. C'est une proposition qui visait uniquement la AIDS Foundation, mais qui du coup va restreindre absolument toutes les autres trucs similaires, à utiliser 95% de leur budget uniquement pour des problèmes de santé publique et pas pour du militantisme.
Ah bah c'est du propre.
Et ça s'est passé. Mais parce que, évidemment, on te le dit, obliger les trucs de santé à utiliser 95% de leur budget pour de la santé, tu dis, bah, c'est du bon sens, oui. Mais quand tu lis les petits caractères, tu te rends compte que, ah, en fait, c'est vraiment une mesure dégueulasse, quoi. Bref. On a presque terminé, il nous en reste deux. Proposition 35. Financer de manière permanente Medical Health General, donc c'est une sorte d'Obamacare mais à la sauce californienne.
Ouais, quand même, je me dis.
Donc financer de manière permanente cette espèce de d'émulation de sécu à la sauce californienne.
Ouais, je pense.
Oui, c'est passé à 67%. Heureusement, ça c'était une bonne mesure, c'était bien.
Ça veut dire que s'il y a une couverture sociale, elle est gérée état par état ?
Oui.
Oh bah vous êtes... Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, putain.
En fait, les États peuvent gérer leurs dépenses de santé d'une manière plus ou moins différente. Remarque, attends, je suis en train de me demander, est-ce qu'elle était vraiment bien celle-là ou est-ce qu'elle était écrite de manière à avoir l'air bien qu'en fait elle n'était pas bien ? Ah bah non, en fait, non, la 35, elle n'était pas bien. Ah. Il aurait fallu ne pas la voir. Ah bah tu vois, alors... J'ai voté contre du coup parce que moi j'ai suivi les conseils que j'avais lus dans mon voting guide parce qu'il y a des voting guides en fonction de comment tu penches. Et donc oui, l'explication de celui-là, c'est que celle-là, elle est extrêmement technique et que sur le principe, ça a l'air super, mais qu'en fait, quand tu lis les petits caractères, t'as plein de trucs qui viennent avec et qu'en fait, il valait mieux voter contre. Donc malheureusement, tu vois, quand tu lis juste Permanently Fund Medical Health General, t'as l'impression que c'est super, ça passe au 67%, et puis manque de bol, si tu te renseignes, en fait, c'est nul. Bon bah voilà, bon bah ça s'est passé et ça aurait pas dû.
Aïe.
Tu vois, je me suis contenté de relire le sujet en me souvenant plus trop ce que c'était, et je suis tombé dans le panneau. Donc ça explique pourquoi plein de gens comme ça votent contre leurs intérêts.
Aïe, aïe, aïe.
Et la dernière, augmenter les peines... pour tout ce qui est délit lié à la drogue ou au vol.
Je sais pas, ça. Je pense qu'instinctivement, les gens sont réac et ils le diront oui.
C'est passé à presque 70%.
Mais ouais, mais le problème, c'est genre, bah oui, tu peux dire oui à ça, mais les infrastructures, quid ? Genre...
Non, mais en fait, on est ce truc, ça va de pair avec le fait qu'on n'ait pas interdit l'esclavage dans les prisons, avec le fait que le type qui était donc procureur général de Californie s'est fait dégager pour être remplacé par un gars qui va mettre de la prison pour de la possession de drogue, ce que cette loi justement maintenant permet. Donc en gros, maintenant, une personne peut... aller 10 ans en taule juste pour avoir fait usage de drogue.
Ah ouais.
Pour ton usage personnel... Tu prends de la drogue, tu peux aller 10 ans en taule.
Ils ont repénalisé
façon Reagan, On est reparti dans les années 80 avec une politique dont on sait qu'elle ne fonctionne pas.
Même si, par contre, l'usage est dépénalisé, c'est-à-dire l'usage est légal.
Oui, mais c'est pas dépénalisé.
Ah, en Californie, elle est pas dépénalisée ?
Les drogues dures, non ?
Ah, les drogues dures, d'accord. Moi, je croyais que je parlais de la drogue du shit.
De l'herbe. La marijuana est légale, mais tout le reste, non.
Ah d'accord, ok.
Donc tu peux avoir, enfin le cannabis est légal, je vais pas dire la marijuana, le cannabis est légal.
Excusez-moi, moi j'y connais rien, je dis les trucs comme ils viennent, le shit, le marijuana.
Non, là c'est une augmentation des peines pour tout ce qui était encore des délits liés à la drogue. Mmh. Donc ce qui n'inclut pas le cannabis, que le cannabis maintenant est légalisé. Mmh. Il est pas juste dépénalisé, il est légalisé le cannabis en Californie.
D'accord.
Mais là pour tout le reste, par exemple tu prends du LSD, tu prends de la MDMA, tu prends de la coke, du crack, peu importe ce que c'est. Là, même si c'est pour ton usage personnel, tu peux partir maintenant 10 ans en tôle parce qu'ils ont décidé de revenir à l'époque de la guerre contre la drogue que Reagan avait menée et dont on savait que ça n'aide absolument personne, quoi. Ça ne résout pas le problème et ça ne fonctionne pas.
Surtout le truc, je me place d'un point de vue social, c'est-à-dire le mec, il est consommateur, il voit ça arriver, il se dit oh là là, j'arrête parce que si je me fais pincer, je risque d'aller en prison. J'y crois pas une seule seconde, quoi.
J'arrête l'héroïne tout de suite, je risque d'aller en prison. Sinon.
Mais oui, je veux dire, on parle à des gens, des êtres humains, qui ont une intelligence et tout ça, ça marche pas comme ça, quoi.
Non, ça fonctionne pas comme ça, surtout quand t'as une dépendance. Donc c'est complètement débile. Et donc voilà, on a fait le tour. Globalement, sur 10 propositions de loi, je crois qu'il y en a 3 qui sont bien, qui sont passées, et 7 qui sont catastrophiques. Donc l'utopie communiste qu'est la Californie a quand même salement du plomb dans l'aile. Et globalement, c'était ce que je voulais dire. Mine de rien, alors on va quand même attendre de voir, parce que je sais que le gouverneur Gavin Newsom est en train de préparer un plan globalement pour essayer de contrer tout ce que Trump va essayer de faire au niveau fédéral. Qu'il a, en fait, il s'y est préparé. Ça fait 4 ans qu'il s'y prépare. Ça fait 4 ans qu'ils se disent on va être prêt si jamais un Trump ou un mec comme lui repasse. Et donc, il va essayer de faire passer au niveau de l'État un maximum de trucs. Mais voilà, on est obligé de se préparer pour l'impact, quoi.
Eh ben, bon courage, Loulou.
Voilà. C'était un long segment sur les élections. J'espère que ça n'a pas trop barbé les gens.
C'est vrai. Et en même temps, t'as expliqué un peu comment ça se passe, parce que moi, j'étais pas au courant. Et aussi, un autre truc qu'on a essayé, je vois ce que tu as essayé de faire, parce qu'on s'est pas concerté sur ce que tu as essayé de faire. On s'est juste rassuré en 2-3 mots sur ton état moral et des choses comme ça. Mais c'est qu'on n'a pas voulu non plus faire les commentateurs de l'actualité, parce que vous en avez, si vous voulez commenter l'actualité, vous allumez BFM, vous allumez CNews et tout ça, vous avez déjà ça. Et peut-être que ça c'est plus angoissant peut-être encore. Nous, on n'a pas envie de faire non plus du commentaire à chaud et tout ça. Et
puis en plus, on entend tellement tout et n'importe quoi depuis l'élection. Harris a perdu parce qu'elle était trop de gauche. Harris est perdu parce qu'elle était trop de droite. Bon, c'est bon, quoi. Enfin, ça sert à rien.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que Super Président Battle part 2 va arriver un jour. Et putain, il y en a un qui va manger.
Et dis-toi, Super Président Battle, la surprise, ce sera Macron qui va peut-être finir sous Sarkozy. Qui l'aurait pu le voir venir ?
C'est Sarkozy qui est plus bas chez nous ?
Il me semble que c'est Sarkozy qui est dernier chez nous.
Ouais. Mais comment c'est possible que ce soit pas Hollande ?
Non. Hollande, il a au moins passé le mariage pour tous.
Ouais, oui, mais Hollande est le père de Macron.
Hollande est le père de Manuel Valls aussi.
Il est le père de Manuel. Genre, c'est lui, c'est ses enfants. C'est ses enfants, faut pas le. Bon, allez, on va pas refaire le match
mais,
tout de suite.
Mais de mémoire, Sarkozy est dernier, ouais.
On va pas refaire le match tout de suite, mais. On va passer à nos recos.
Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras.
Évidemment, la phrase rituelle, c'est... Non, c'est After Eight sur le site.
C'est une phrase rituelle. Non, tu as raison. C'est une phrase rituelle. C'est une phrase rituelle. After Eight est un titre trompeur.
Parce qu'à la fin, on balance nos recommandations.
Voilà. Je vais te laisser partir en premier parce que moi, j'ai beaucoup parlé là. Je me repose un peu là.
Vas-y, repose-toi. Écoute, moi, je vais recommander. J'avais une série. J'avais regardé la saison 1 et je l'avais recommandé dans Super Ciné Battle, un podcast de qualité. Et tu sais quoi, il y a la saison 2 qui a commencé et c'est sans doute les plus grosses poilades que j'ai eues depuis très, très, très longtemps. Pour une série télé.
Ouais.
Ça s'appelle Shrinking, est-ce que t'en as entendu parler ?
Ah, j'en ai entendu parler parce que ça a été créé par Bill Lawrence, qui est le mec derrière Scrubs, et c'est produit par les gens qui étaient derrière Ted Lasso.
Exactement, c'est la team Ted Lasso.
Mais je n'ai pas encore regardé. Ma femme a regardé la saison 1, a beaucoup aimé.
Scrubs, et moi je suis pas très Scrubs, mais bon, je vois. Et puis il y avait surtout Spin City. Moi je connais vraiment c'était la team Spin City. Mm-hmm. Et Shrinking, c'est une série mettant en scène Jason Segel, qui est le personnage principal et qui est un psy, qui doit faire le deuil de sa femme qui est morte il y a un accident de voiture il y a plus d'une année. Il est catastrophé, il est pas dans un bon état, mais en même temps il doit faire son boulot de thérapeute. Et il partage son bureau avec trois personnes, dont Jessica Williams. Tu vois qui est Jessica Williams, toi, mais
bien sûr,
on va le rappeler.
Ancienne correspondante du Daily Show.
Voilà, c'est une régulière du Daily Show. Elle est très, très drôle. Elle est vraiment... t'as envie d'être sa pote. C'est incroyable. J'ai jamais ressenti ça autant pour une personne. J'ai envie d'aller boire des bières avec elle, alors que je n'aime pas la bière. Je ne bois jamais de bière, tu sais.
Jessica Williams, c'est la prof cool dans Booksmart.
C'est la prof cool dans Booksmart. Et ce qui est intéressant, c'est que le troisième larron de leur bande, celui qui partage, le thérapeute qui partage le bureau avec eux, c'est Harrison Ford.
Harrison Ford qui est content d'être là et ça fait toute la différence.
Ben, exactement. C'est qu'Harrison Ford, on l'a oublié, mais Harrison Ford, il sait super bien jouer à la comédie et surtout, il sait super bien jouer les comédies.
Et il est drôle.
Il est hilarant.
Voilà.
Et je pèse mes mots, là, j'ai vu l'épisode 5 de la saison 2, j'ai pleuré de rire tellement c'était drôle. Et c'était que ses répliques à lui. Évidemment, son répertoire, c'est un peu le mec grognon, le mec pas content. Si vous avez une nostalgie de Bacri, c'est pas très loin ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment, il est pas content. Et c'est pas juste un caméo, il est là à tous les épisodes, et c'est un rouage très important de cette petite famille, puisqu'en fait il y a Jason Segel a aussi une Jimmy, il a aussi une fille, il a une voisine qui participe beaucoup à la vie de cette famille, et Jimmy, donc joué par Jason Segel, se dit merde, il faut que j'aide vraiment les gens, et il change un peu sa méthode de thérapeutique, il se met à beaucoup plus participer à la vie de ses patients. Pas une bonne chose à faire. À chaque épisode, on se dit avec Amandine, c'est pas un très bon psy en fait, parce que c'est pas ce qu'un psy est censé faire. C'est-à-dire, il est censé te donner des clés de réflexion et des choses comme ça. Il est pas censé te dire, fais ci, fais ça et je t'héberge. Enfin, tu vois, te dépanner quoi. C'est pas exactement ça.
Ouais.
Mais voilà, c'est une série vraiment très 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 drôle. Et franchement, je m'éclate. Et Harrison Ford est au-delà du réel. Vraiment, c'est ma série coup de cœur, quoi. Et voilà. Franchement, c'est super.
Ouais, ben je sais. Ça fait partie des séries qu'il va falloir que je regarde un jour. En ce moment, on est en train de regarder Abbott Elementary. Et je pense que quand on aura fini Abbott, j'attaquerai Shrinking. Abbott Elementary, qui aurait pu être une reco. Ben, je me la garde pour quand on aura fini la nouvelle saison. Moi, je vais recommander une vidéo YouTube. Une vidéo du YouTube d'un YouTuber que... Alors, j'imagine que la plupart de nos jeunes auditeurs connaissent déjà, mais tu le sais, Daniel, nous, on est un petit peu pas trop à la page. C'est Squeezie... Non, c'est pas Squeezie.
Ah, c'est Inoxtag.
non plus. Pauvre Inoxtag, t'as vu, il s'est fait cambrioler dans deux de ses maisons, le pauvre.
Bah ouais, mais surtout, je suis surpris que Inoxtag n'ait pas de service de sécurité, surtout, en fait.
Ouais, c'est fou. Bref, c'est un YouTuber qui s'appelle, alors je sais pas, je vais certainement pas bien le prononcer, Feldup ou Feldup, que je sais pas comment le prononcer ça, donc je vais le prononcer Feldup, et je suis absolument désolé pour lui, si ça se trouve, ça se prononce Feldup. Mais voilà. Et donc, c'est une vidéo en particulier qui s'appelle « Il est caché sous terre ». Et il est caché sous terre, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une vidéo d'analyse d'1h15.
Ah!
Ça dit quelque chose?
Ouais.
C'est sorti il y a une quinzaine de jours. C'est une vidéo d'1h15, qui fait partie d'une playlist qui s'appelle Les mystères et bizarreries d'Internet et de notre monde. Donc, en Feldup, il analyse en fait des trucs, et ça rappelle un peu l'émission Mystère de l'époque, ça aussi, que nos jeunes auditeurs n'auront pas connu. Mmh. Et il est caché sous terre, c'est une chronique qui parle d'une web série qui s'appelle The Oldest View. Et The Oldest View, je parle d'une vidéo YouTube sur d'autres vidéos YouTube, c'est assez méta. The Oldest View, c'est une série de vidéos d'un mec qui s'appelle Kane Pixel, Et Kane Pixel, il s'est fait connaître sur Internet il y a quelques temps via une autre série de vidéos sur les Liminal Spaces. Et les Liminal Spaces, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie de ces trucs d'Internet qui sont du creepypasta, avec notamment les Liminal Spaces, c'était ces photos d'endroits désaffectés ou de pièces vides, et où tu te demandes si c'est des montages, si c'est des vrais endroits, avec toute une mythologie derrière. Et The Oldest View, ça se base sur une vidéo d'Urbex. Et je ne sais pas si tu l'as vu, la vidéo de The Oldest View.
Non, je n'ai pas vu.
Une vidéo d'Urbex où un jeune homme découvre un trou dans la campagne. Et il rentre dans le trou et là, il se rend compte qu'en fait, il y a un escalier avec de l'éclairage, que c'est aménagé. Il suit l'escalier, il ouvre une porte et il se retrouve dans un vieux mall, un vieux centre commercial désaffecté. Et dans ce vieux centre commercial désaffecté, il va trouver des trucs assez fous. Et puis, j'ai pas envie de trop spoiler, c'est une vidéo qui fait un peu peur. C'est super bien fait parce que il faut savoir que le mec qui a fait cette vidéo, Kane Pixel, c'est une vidéo qui est quasiment intégralement en CG, donc quasiment intégralement en images de synthèse. Il a tout reproduit à l'identique en se basant sur des lieux qui existaient déjà. Et ce gars a 18 ans. Et il a un talent tellement incroyable qu'il va réaliser justement, il va réaliser un film prochainement. Il a été repéré par, alors je pense que ça doit être Blumhouse, hein, parce qu'ils sont assez bons pour repérer ces gens-là. Il va donc réaliser le film The Backrooms. Les Backrooms, c'est Liminal Spaces dont je parlais juste avant. Donc je sais pas en français si on dit espace liminaire ou liminal. C'est comme ça qu'on dit. Donc ces lieux vides ou abandonnés qui semblent un peu flippant, quoi, où on peut avoir l'impression d'être observé, où il peut se passer des trucs un peu bizarres. Donc voilà, alors c'est extrêmement compliqué parce que j'ai parlé de plein de gens, plein de choses, mais en gros, pour faire simple, vous cherchez Feld Up, il est caché sous terre, F-E-L-D-U-P, il est caché sous terre. Et partant de là, si vous avez envie de regarder les vidéos de The Oldest View avant de regarder la vidéo d'analyse de Feld Up, parce que la vidéo d'analyse de Feld Up spoil tout. Hein, donc si vous voulez vous conserver la surprise, donc vous cherchez The Oldest, O-L-D-E-S-T, View, V-I-E-W, par Kane Pixel, K-A-N-E, espace Pixel avec un S.
Donc tu mettras tout ça par écrit pour qu'on le mette sur le dans la description de l'épisode.
On mettra tout ça, voilà, dans la description de l'épisode. Voilà, et voilà, je veux pas en dire plus, mais c'est une vidéo incroyable. Et le boulot de Feld Up est vraiment super. Il a vraiment l'œil pour reparer des détails sur des vidéos YouTube avec une compression dégueulasse. Je sais pas comment il fait, mais c'est vraiment super intéressant. Et je vais prochainement m'envoyer plus de ses vidéos parce que voilà, il a une vidéo sur la station fantôme qui émet depuis plus de 40 ans. C'est une station radio, je crois, qui est située quelque part en Russie, il me semble. Mais bon, voilà, moi ça me rappelle un peu donc l'émission Mystère dont je parlais juste avant, c'est plutôt chouette, c'est plutôt trippant.
D'accord, bah écoute, moi je vais regarder ça avec attention. Tu sais que l'urbex, c'est plutôt quelque chose qui me parle. Bah écoute, c'est tout pour cet épisode, je pense.
Eh, on a fait une heure presque, pendant 15 minutes au début.
oui, alors je sais pas comment. Bah, bon courage à Baptiste qui monte cet épisode.
Mais on a tout enregistré, peut-être Baptiste va mettre tout ça en bonus. Qui sait ?
Je sais pas. C'est suivant, ça se trouve, il en aura de cul, il est temps et peu. Et il ira boire un thé et je peux pas le blâmer. Moi, j'irai boire un thé moi-même, tu vois, si j'étais.
C'est très spécifique. Pourquoi pas une bière ?
Parce que je ne bois pas de bière.
C'est vrai, mais lui, oui.
Ah oui, lui, il boit de la bière, oui, il boit de la bière.
Ah oui.
Donc, merci de nous soutenir sur After Eight, donc sur patreon.com/RPU, en rappelant que c'est grâce à ça que nous allons pouvoir monter le live qui nous attend dans un mois, dans pile un mois, en fait, presque un mois.
C'est ça.
Donc, j'ai du pain sur la planche pour l'organisation. Mais,
le 15 décembre, c'est ça.
Souhaite-moi bonne chance, parce que...
Bonne chance, Daniel.
Merci. Et merci de votre soutien aussi, c'est vrai. Vraiment, c'est inestimable pour continuer à produire ce podcast, à le monter, à le propulser sur les ondes internet, sur notre site officiel after8.fr, sur toutes les applis de podcast dédiées, sur Mastodon par Benji et moi sur Blue Sky. Globalement, on peut le dire. On n'avait pas évoqué les élections par ce biais là aussi frontal, mais en tout cas Twitter a un peu moi, ce que j'ai décidé, c'est que personnellement, je ferai pas de nouveau contenu sur Twitter. C'est-à-dire, je partirai de mon travail, je répondrai aux gens, je communiquerai, mais je ferai pas de nouveau contenu. C'est-à-dire, si j'ai envie de parler de comics ou de jeux vidéo ou de BD ou de quelque chose que je un tweet ou un truc créatif, je ferai ça plutôt pour Blue Sky. Pas parce que je me fiche complètement de l'audience, mais je préfère plutôt la qualité de l'audience. Et vraiment, Twitter est devenu un fact, en fait. Et ça m'est devenu deux fois plus un fact, puisque, comme tu le sais, j'ai été aux États-Unis il y a pas si longtemps, et j'ai vu la masse de pubs, putain! La masse de pubs que vous devez vous farcir sur Twitter.
Ah, c'est infernal. Puis c'est des pubs, là, les pubs, en plus. Hein. C'est vraiment dégueulasse, quoi.
Non, mais c'est les pubs trumpistes, c'est les pubs dégueulasses, c'est les pubs vraiment, vous imaginez même pas ce qui passe là-bas.
C'est des pubs trumpistes, c'est des pubs pour de la crypto, c'est rempli de bottes de cul aussi. Les bottes, c'est une catastrophe.
Hein. Et en France, j'ai vu une pub pour la Scientô. Et donc, tu vois, genre, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie, quoi ? Et je me dis, j'ai pas envie de, par notre présence, essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent en disant, ah, c'est un cool endroit. Ce n'est plus un cool endroit, c'est sûr et certain.
Voilà, donc moi, je vais communiquer pour les dates du live, mais après le live, je pense que le compte After Eight va devenir dormant sur Twitter, parce que je ne veux plus.
Ouais, je l'utiliserai peut-être à l'occasion, mais en vrai, moi, ça m'excitait un peu de voir Benji balancer ses opinions personnelles alors que j'en ai rien à faire, alors que c'est pas du tout ce que j'aurais fait moi, mais je trouvais ça rigolo parce que c'est toi et tout. Moi, j'ai dit à Stéphane, Super Ciné Battle, tu peux l'utiliser, vas-y, utilise-le, lâche-toi si tu veux. Mais si c'est pas pour nous faire des ennemis, tout va bien.
Oh bah on a peur de ça en plus. Oui. On voudrait pas se faire des ennemis.
C'est vrai.
Quelle horreur.
Non, honnêtement, moi le game changer, c'est quand je suis rentré, je sais pas, c'était un lundi, c'était le mardi juste après les élections, et tout d'un coup j'ai un push de quelqu'un que j'aurais pas voulu voir, tu vois. Et genre à un moment, si tu bloques des youtubeurs pour pas les voir, et c'est que tu quand même tu tapes leur contenu. Et je me mets à la place des gens là qui bloquent et qui ils ont...
Mais tu sais que j'ai le problème sur YouTube aussi, hein. Il y a des chaînes que j'ai absolument pas envie de voir et je ne sais pas comment faire pour qu'ils arrêtent de me les mettre en avant, quoi.
Ah, il faut 10 000 fois répéter je ne veux pas, je sais, parce que je sais, quand j'ai une chaîne YouTube, enfin j'ai un compte YouTube dédié au dessin animé russe de mon enfant.
Ouais.
Et à chaque fois il y a des trucs en français qui arrivent et moi je fais la gueule, je dis non jamais de français, jamais. En fait, ne passera pas par cette chaîne. Sinon, ça nique l'algo.
Bah ouais.
Et après, il t'en propose un deuxième, et après, c'est fini, quoi. Donc voilà, voilà comment on vit sur un îlot linguistique. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie de nous suivre. On vous le rappelle, il y a un live qui arrive dans un mois, et on vous embrasse très fort.
Le 14 décembre 2024.
Finger crossed.
Oui.
Allez, on vous embrasse et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
De gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches.
Bisous, prenez soin de vous. Où que vous soyez, ciao.
Un peu le volume. Je vais essayer de pas trop boire devant le micro parce que j'ai soif.
Mais en même temps, chez toi, il fait 60 degrés, donc c'est normal que tu boives.
Il fait 28 aujourd'hui.
Attends, je regarde. Le mic. Sinon, un truc génial, hein, tu éteins le micro et tu bois. Hein.
Un moment de boire, ouais. C'est vrai, c'est un beau concept, ça.
C'est pas mal, hein. Moi, je fais ça. Hein. J'étais malade pendant un mois, je sais ce que c'est. C'est bon, j'ai augmenté un peu le micro.
D'accord.
Il serait temps que je change de micro, putain. Mais je trouve pas quelqu'un pour me conseiller du bon matos.
T'as toujours le Yeti ?
Ouais. T'imagines, après toutes ces années.
Alors moi, j'ai un HyperX Quadcast qui est un peu jacky parce que c'est un micro de gamer, streamer Twitch. Mmh. Mais non, je suis très content globalement.
Un peu jacky. C'est bizarre hein, l'expression, un peu jacky.
Bah, un peu jacky parce qu'en fait, il y a une grosse lumière rouge dessus quand ça enregistre.
Mmh. Mais c'est rigolo, les jacky, parce que c'est une expression qui n'existe plus vraiment, les jacky. Personne dit les jacky maintenant.
Moi, je dis toujours jacky PC, jacky tuning. Mais...
Ah ouais, c'est vrai?
Ah ouais, toujours.
Moi, dans le genre expression encore moins utilisée, tu connaissais l'expression les Guillaume?
Ça me dit quelque chose, mais je crois que je ne l'ai pas dit depuis le collège.
Personne ne dit les Guillaume, mais pourtant, c'était une expression qui existait vraiment. Ça voulait dire un jeune bourgeois, mais qui est fan de rap.
Ouais, un petit bourgeois, ouais, voilà, ouais.
Ouais, genre, mais qui est fan de rap, genre, waouh, ouais, papa, laisse-moi, je fume de la drogue.
Ouais, tu portais du chevignon avec une casquette à l'envers.
Un petit peu.
Ah ouais. Alors, c'est marrant parce qu'au collège, j'en connaissais un, il s'appelait Guillaume.
Moi, j'en connaissais un autre, il s'appelait Guillaume, mais il n'était pas au collège, il était présentateur de télé.
Guillaume Durand?
Mais non. Comment il s'appelait déjà, son pseudo? Ah, putain. Et il s'appelait... Ah, il me faisait éclater, il m'éclatait parce qu'il est vraiment, il écoutait du rap, mais en même temps, il était toujours, oh, est-ce que tu crois que ça craint pas trop que j'aille à 22h30 là-bas? Il risque d'avoir, oh, et tu sentais que dans sa voix, il voulait dire des noirs et des arabes. C'est ça que ça voulait dire, hein, vraiment. Il était comme ça, il était flippé, il était ridicule.
C'est marrant cette dissonance quand même.
Bah, c'est parce que il appréciait légitimement, je pense, la musique, mais en même temps, il n'était pas confronté à ça en réel, tu vois.
Ah ouais. Oui, ça restait du domaine de l'imaginaire pour lui, quoi.
Ouais, ouais, c'est... Tu sais, c'est comme mon pote en Pennsylvanie, quand je lui dis j'adore The Wire, il fait « Ah non, pour toi, c'est exotique.
Oui,
pour,
ouais,
moi,
ouais.
C'est... pour moi, c'est à une heure de voiture.
Pour moi, c'est le quotidien. Pour toi, c'est... Oh là là. »
Il dit « Ouais, pour toi, c'est tout. C'est super, c'est la télé. Moi, c'est à une heure de bagnole. »
Bah, dans un autre ordre d'idée, alors pas comparable à The Wire évidemment, pas aussi grave, mais quand les gens me disaient que la série Silicon Valley, ça les faisait mourir de rire, et que moi je leur disais que ça me faisait déprimer parce que c'était trop réaliste en fait.
Ah ouais? C'est si dépressif que déprimant que ça, Silicon Valley?
Mais Silicon Valley, la série est certainement drôle, mais quand tu connais la vraie Silicon Valley, c'est vraiment extrêmement réaliste, et donc c'est déprimant en fait, parce que les gens sont tous des connards. Hein, donc,
J'imagine, hein, dès que tu ne connais l'envers du décor, c'est toujours moins drôle. Bon, allez, on fait un clap peut-être.
Mais c'est dire à quel point la série avait vraiment bien cerné le truc, parce que vraiment, c'était d'un réalisme saisissant, quoi.
Ah, je vois pas qui travaillait dans la pub dans les années 60 et qui voit Mad Men et qui se dit « Man, good old days ».
Non, mais voilà, mais, tu vois, je pense que c'est un peu la même chose. C'est que pour nous, regarder Mad Men de nos jours, c'est marrant, mais s'il y a quelqu'un était dans...
Ah, c'est pas marrant du tout, Mad Men. T'as regardé Mad Men ou pas?
J'ai jamais regardé Mad Men. Mais enfin, en fait, je connais Mad Men via les gifs et je trouvais ça rigolo, quoi. Après, je pense que ça doit détourner le truc.
Mad Men, pour moi, c'est... Ouais, je crois que c'est dans le top 3 ou top 4 séries. Genre, c'est vraiment... C'est genre les séries... Genre, une série essentielle. Genre de... Pour moi, c'est vraiment une série vraiment essentielle.
D'accord. Donc, c'est pas du tout une comédie, alors?
Ah non, zéro. Il y a zéro, okay. Zéro.
Bah, tu vois, j'avais une fausse impression à cause des gifs, vu que j'ai pas regardé.
Ah non, mais oui, non, mais c'est zéro une comédie. Enfin, c'est-à-dire, c'est la leçon numéro 1 de Mad Men, c'est « It sucks to be a woman ».
D'accord.
It sucks to be a woman in the 60s. C'est vraiment, c'est genre, c'est la première leçon de Mad Men.
T'inquiète pas, it sucks to be a woman de nos jours aussi.
Oui, bien sûr. Mais Mad Men se passe dans les années 60. Hein. C'est pas, il y a pas de. Y a
ouais,
pas,
ouais, ouais.
Voilà. Normalement, techniquement, Don Draper devrait être mort alors qu'il est. S'il a 40 ans là.
40 ans dans les 60s, oui, il doit être mort là.
Ouais, je pense qu'il est cuit quand même là.
Mais tu vois, moi j'ai vu des gifs assez rigolos de Don Draper et c'est pour ça que j'avais un peu l'impression qu'il y avait.
Ah ouais.
Que même si une série sérieuse, il y avait des passages marrants quoi.
Alors oui, évidemment, lui, il est infect, mais en même temps, il est très séducteur.
D'accord.
Il est très drôle, il a de l'esprit, c'est un marchand de lui-même, et c'est ça le propos de série, c'est un marchand de lui-même, il travaille dans la pub. Donc, il sait bien parler, il sait bien présenter, mais par contre, quand ça vacille, quand il y a quelque chose en lui qui tourne pas rond, tu le vois tout de suite, quoi. C'est genre, le contrat ne se finit pas, il y a un truc qui tourne pas rond, et il faut expliquer pourquoi. Et la série, il t'explique au fur et à mesure pourquoi.
D'accord.
C'est absolument... Et le générique, c'est le Don Draper en ombre chinoise qui tombe d'un immeuble. Tu vois, c'est genre, c'est the downfall. C'est vraiment, c'est genre, il chute. Et pendant toute la série, tu te dis, est-ce que ça va vraiment arriver?
Ouais.
Voilà.
D'accord. Ok, bah, de toute façon, c'est vrai que cette série est sur ma liste de de trucs considérés comme classiques de nos jours que j'ai pas encore regardé. Mmh. Avec The Wire, hein, tu sais que j'ai toujours pas vu The Wire.
Ah, il te reste encore des bons trucs. Mais tu sais quoi, hein, j'en parle souvent. Oh, ça va faire un gros bonus pour Baptiste quand même. Tu sais quoi, d'abord, il est jamais trop tard pour le regarder, c'est pas parce que.
Oui, oui,
la série existe toujours.
Ma femme a tout regardé sans moi et m'a dit faudrait que tu regardes quand même. J'étais dégoûté.
Faut juste pas que tu regardes la version network qui est diffusée à la télé en ce moment parce qu'il sent surtout.
La version de The Wire.
Ouais, genre, il la diffuse sur le network classique, tu vois, pas sur HBO, mais sur le network télé, quoi.
Mais c'est sur Max, il me semble, The Wire. Est-ce que tu sais si c'est censuré sur Max?
Ah, sur Max, non. Sur Max, je pense pas.
Ok.
Mais il y avait des histoires de quelques trucs qui ont été coupés. Je crois qu'il y avait une histoire d'épisode avec une blackface dans Mad Men, mais c'est les 60s. Tu vois, c'est normal. Et du coup, je crois qu'à l'épisode, je crois qu'on m'a dit que l'épisode a complètement été effacé. Je crois que c'est des trucs comme ça, quoi.
Comme il y a un épisode de The Office qui a disparu.
C'est lequel?
À cause d'une blackface, il me semble.
Ah ouais?
Ou en gros, c'est Dwight qui se déguise en. Je me demande s'il se déguise pas en Krampus, mais pour le faire, il se fait une blackface. Et il me semble que cet épisode, alors c'est peut-être juste ce passage-là de l'épisode qui a été coupé, peut-être pas l'épisode entier qui a disparu, mais ouais, ouais.
Mais tu vois, il me... Oh, oula, le micro se casse la gueule. Mais tu vois, il me reste aussi des classiques à voir. Et il y a un truc que j'adore, c'est si tu les regardes, dis-moi où t'en es, parce que j'adore suivre... J'ai un pote qui se refait The Soprano en ce moment, mm-hmm. Et il me raconte à quel épisode il en est, et il me dit, ça c'était un mauvais parenting advice, puisque Soprano c'est aussi basé sur le fait que c'est aussi un père, c'est un mafieux, mais il a aussi une vie de famille, mm. Et il me fait, mauvaise idée, et à chaque fois, je commente avec en me souvenant de ce que c'est. C'est des séries à la fois où je me souviens bien des épisodes, mais en même temps, il y a peut-être des phases d'ombre ou des moments que je me souviens moins bien et tout, et c'est génial de se remémorer ça. The Wire me fait particulièrement ça, mais en tout cas pour les trois séries susmentionnées, c'est quand même des séries, à chaque fois que j'en parle, j'ai tout le temps envie de les revoir.
Ouais.
Et tu sais quoi, alors on va faire un très gros bonus, mais tu sais quoi, je repensais à une de mes séries préférées, en fait, je pensais aux épisodes. Tu sais, parfois, je préfère parler d'épisodes préférés que de saisons préférées. Et moi, j'ai des épisodes qui m'ont marqué à vie sur certaines séries. Mm-hmm. Je sais pas si tu regardais Quantum Leap, Code Quantum.
Ah si, Code Quantum, oui.
Ah mais alors,
Scott Bakula.
Moi, l'épisode où il retourne en lui-même dans le passé, je peux pas le regarder tellement je chiale.
Alors, je sais plus si je l'ai vu celui-là, tu sais que moi, je regardais Code Quantum quand ça passait sur la 6, donc limite dans le désordre, je sais.
Ouais, mais là, ils avaient fait gaffe parce qu'ils faisaient en sorte que quand ils le diffusaient, ils diffusaient celui où il est dans lui-même dans le passé, et ensuite, ils diffusaient en général celui où il est un pote de son frère dans le futur.
D'accord.
Parce que c'est important, parce que son frère est sur le point de partir au Vietnam. Et du coup, il se retrouve dans la peau de quelqu'un qui est avec son frère. Tu vois, donc c'est, et pour moi, c'est c'est peak télévision, quoi. C'est vraiment, tu peux difficilement faire mieux, quoi. Acting, écriture, Dean Stockwell, enfin vraiment, c'est extraordinaire. Scott Bakula, bien sûr. Bref, toutes ces bonnes séries. Ah, tu sais que dans le dernier Super Ciné Battle, on parle du film de X-Files.
Lequel? Le premier ou le deuxième?
Le premier.
Donc celui qui était entre les saisons 5 et 6?
Exactement.
D'accord.
Pas ouf comme film, mais...
Pas ouf, c'était pas un très bon film, c'était pas non plus un très bon double épisode.
Ouais.
Mais ça reste mieux que le deuxième film.
Ah oui, alors c'est exactement ce qu'a dit Stéphane. Vous êtes d'accord là-dessus, il dit le deuxième film c'est cata.
Voilà.
Mais j'ai pas été voir le deuxième film.
Le deuxième film c'est cata. Et est-ce que tu les avais regardées, les saisons 10 et 11, celles qui sont sorties récemment?
Non. Ça, non, je.
Alors, les saisons 10 et 11, globalement.
C'est celle avec Mulder et Scully, hein, quand même.
Oui, il y a Mulder et Scully dans les saisons 10 et 11. La 11, alors tout ça, c'est sorti dans les années 2010, il me semble. Attends, je vais vérifier.
Ah oui, c'était le revival, ouais.
C'était le revival. Donc, on a eu la saison 10. Quelle année c'était la saison 10? Attends, je regarde. C'était en 2016, la saison 10, et la saison 11, c'était en 2018. Et
pourquoi voudrais-tu que je regarde ça?
Ah bah, si t'étais fan du X-Files d'origine, il y a des trucs chouettes dedans.
Ouais, mais ça m'a passé. En fait, moi, c'est pile entre la 5 et la 6. Et Stéphane m'a dit qu'en plus, la 6, il y avait des bons épisodes et tout.
Ah bah, la 6, c'est ma saison préférée. Hein,
ouais, mais j'ai fait stop. Je suis allé au bout du système. je suis allé jusqu'au bout du système, quoi. Je pouvais plus, j'en pouvais plus d'aller venir, de laisser l'épisode qui servait à rien. En plus, on les regardait en VF à l'époque.
Bah, la VF était de très bonne qualité et c'est vraiment dommage d'avoir arrêté à la saison 6 parce que la saison 6, c'est vraiment celle où t'as les épisodes Monster of the Week, comme on dit, qui sont vraiment les meilleurs. Où les mecs, étant donné qu'ils venaient ils avaient fait leur film, ils ont dit c'est bon, on a fait le film, on n'a plus rien à prouver. Et ils se sont vraiment amusés avec le concept et ils ont essayé plein de trucs. Ils ont vraiment poussé le principe, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Et franchement, je trouve que la saison 6, c'est celle où ils expérimentent à fond. Et c'est vraiment celle qui vaut le coup. Passer de la sortie de la saison 1, évidemment, celle qui posait les enjeux. Mais tu vois, moi, c'est marrant avec X-Files, j'ai eu une relation un peu bizarre parce que quand j'étais enfant, les épisodes Monster of the Week, enfant, j'étais ado, les épisodes Monster of the Week m'intéressaient moins. Moi, j'étais à fond sur oh, la conspiration, le fil rouge, les épisodes feuilletonnants.
Qui servent à rien.
Et en fait, quand je me suis tout refait plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, tous les épisodes conspiration, fil rouge, c'était super bidon, c'était un peu tout pourri. Et ça s'est confirmé avec les saisons 10 et 11. T'as quatre épisodes fil rouge conspiration qui sont au début et à la fin de la saison à chaque fois. C'est de la grosse merde. Et les épisodes les plus intéressants, bah, c'est ceux qui sont des Monster of the Week, qui sont toujours super drôles, quoi. Donc,
moi, j'étais pas fan de la VF, en plus, parce qu'il y avait tous ces personnages soi-disant russes qui étaient vraiment très, très nuls. Et,
dans la VO, ils sont pas meilleurs, hein, tu sais.
Ouais, c'est vrai.
VF était franchement de bonne qualité.
J'imagine qu'il y a aussi des faux accents russes.
Oui, il y a des faux accents russes en VO. Mais non, la VF était vraiment de qualité. Je trouve ça dommage. Et puis c'est dans la VF que Dana Scully appelle Internet. Donc
ça c'est mythique. Est-ce qu'on s'y mettrait pas un peu là ?
Faudrait qu'on commence l'épisode. C'est vrai qu'on n'a pas commencé là.
On n'a pas commencé. Tu m'as dit on fait un mini-zode.
Je pensais faire un mini-zode au début.
Allez, on fait un clap.
Allez,
1, 2. On en fait un deuxième. 1, 2, 3. Parfait. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 180. After Eight est le talk show qui déconstruit la... Bon, là, je te refais.
Improduction, RPU.
Normalement, ça sera...
Le 14 décembre.
Mais qu'est-ce qui sera le...
Le 14.
Daniel.
Le premier épisode live d'After Eight.
T'as vu cette relance ?